parabole du jour avec le Père Willem.
Nous continuons cette réflexion sur le Fils réconcilié. Étranger. Il était devenu étranger à lui-même, à celui qu'il avait été, insouciant, spontané, n'obéissant qu'à son instinct et à son plaisir. Mais tout autant étranger à celui qu'il voulait devenir et qu'il ne serait jamais, il le savait bien. De la rue parvinrent des bruits stridents. Quelqu'un hurlait de longues plaintes aiguës. Par la fenêtre, il vit passer un pauvre fou. Tout le monde a pitié des malheureux qui sont la proie d'un démon, mais qui ne s'est jamais soucié de ceux qui sont dépossédés d'eux-mêmes. Sait-on même qu'ils existent, ces abandonnés qui n'ont plus conscience de ce qu'ils sont, ces misérables qui ne peuvent plus s'estimer, s'aimer, avoir confiance en eux, égarés qui n'ont même plus idée d'un possible bonheur, qui, incapables de former un projet, se regardent survivre, démunis d'espérance, spectateurs attristés, d'eux-mêmes, avec au cœur un chagrin perpétuel qu'ils ne peuvent partager avec personne. Telles étaient ses sombres pensées, tandis qu'il prenait son repas seul dans un coin de la grande salle de l'auberge, les yeux fixés sur le mur. En se levant de table, il mit un terme à ses ruminations, les chassa de son esprit, comme on secoue de ses souliers la poussière du chemin. L'après-midi, il se rendit chez plusieurs marchands. Il négocia habilement avec chacun d'eux et c'est la bourse pleine, au-delà de tout espoir, qu'il revint à la ferme. Son père le félicita vivement des excellents résultats qu'il avait obtenus et le remercia. Il se coucha un peu apaisé. À l'aube suivante, il se présenta comme d'habitude dans la cour de la ferme avec les ouvriers pour prendre connaissance de ce qu'il y aurait à faire et un travail qui est rendu possible au cours de la journée. Car chaque journée, c'est un trésor de vie, un trésor d'invention, de découverte. Mais le père lui demanda aussi que son frère aîné, à l'intérieur de la demeure. Dieu, commença le père, m'a pourvu dans sa bonté de deux fils qui m'aiment et sont pareillement attentionnés à mon bien. Ces deux fils me sont également chers. Mon plus grand désir est que chacun d'eux trouve auprès de moi épanouissement, prospérité, sagesse, félicité. Toi, dit-il, au fils aîné, tu organises les travaux mieux que le meilleur des intendants et tu peux les accomplir aussi bien que n'importe quel ouvrier. Tu as connaissance, savoir-faire, courage, autorité. Tous respectent tes jugements et ta conduite. Tu sais entraîner les moins diligents à suivre ton exemple. Je souhaite que désormais tu te consacres à la mise en valeur de nos travaux. Quant à toi, poursuit-il en s'adressant au cadet, tu as d'autres qualités. Tu feras, si tu le veux bien, négoce dans ce que nous produisons. Ainsi tirerons-nous parti de ton allant, de ton inclination à connaître les pays et les gens, du savoir que tu as acquis dans les mœurs et les langues des étrangers. Quant à vos talents à tous les deux, notre maison pourra prospérer pleinement. Le père parla de la sorte. Puis il renvoya l'aîné et garda auprès de lui le plus jeune. « Mon fils, dit-il, le jour où tu nous as quittés, il m'était aisé de te rattraper et de te ramener par la persuasion, disons. Oui, par la persuasion, peut-être. Sinon, par la contrainte. Plus tard, j'aurais pu dépêcher un de mes amis pour te raisonner. Par la suite, j'ai eu souvent envie d'abréger ta faim et ton dénuement en te faisant parvenir quelques sommes d'argent. Finalement, j'ai permis que tu ailles à la ville et j'ai voulu que tu demandes l'impossible et que tu demeures loin de nous aussi longtemps que je le souhaitais. Aujourd'hui, je sais que j'ai bien agi, car ce que j'ai vécu alors, dans le contentement ou dans l'affliction, devient bénédiction pour toi et notre maison. Par ailleurs, il lui était amer de retourner dans la grande ville, là où il s'était livré à ses mauvais penchants et où, par la suite, il avait souffert. Lorsqu'il se retrouve au milieu de la foule bigarrée et bruyante, dans les rues bordées de marchandises, des marchandises clinquantes, il se rendit compte à quel point il avait changé. Tout ce qui, jadis, avait séduit ses yeux lui paraissait pacotille, sans valeur. Rencontrant quelques-uns de ses anciens camarades, il les jugea futiles et eut pitié de leur vie qu'il jugeait vaine et fade. En même temps, dans sa tête, des idées noires le harcelaient. À l'auberge où il se rendit, il demanda qu'on lui servît un repas dans un coin de la salle, à l'écart des autres clients, et il mangea face au mur. Pour rien au monde, il n'aurait voulu redevenir le sauvageon épris avec violence de ce qui brillait, qui aimait tant le chant, la danse, les filles faciles. Cet cervelet n'était plus qu'un étranger pour lui et un étranger qu'il n'aimait pas. Mais une petite voix, insinuante, insistante, lui murmurait « Cet étranger, même si tu le déplores maintenant, c'était toi. Aucun homme ne te ressemble plus que lui, avec ses défauts, ses légèretés, ses naïvetés et aveuglements, plaisir, souffrance, désir, colère, émerveillement, tout en lui naissait du cœur même de son cœur. Et aujourd'hui, qui es-tu? Peux-tu dire en toute sincérité que le juste que tu essaies d'être dans la maison de ton père est plus toi-même? Que le pécheur qui hier s'enivrait courait les lieux de fête de cette ville? » Et à cette question, il ne pouvait qu'apporter une réponse qui lui était douloureuse, une pâle imitation de son frère. Il n'était rien d'autre et rien de plus. Il s'efforçait de faire comme son frère aîné. Le père n'avait pas encore parlé au fils prodigue ce jour-là. Je sais que dans ta vie, tu as appris d'une femme à jouer de la flûte. Alors, prends cet argent. À l'occasion de prochains déplacements à la ville, achète donc une flûte. Je veux que lorsque tu jugeras bon, utile, ou quand nos frères, nos ouvriers ou moi-même te la demanderons, tu réjouisses nos cœurs de musique et que tu guides nos chants. » Alors, le jeune homme mit un genou à terre, prit les mains de son père, qu'il baisa avec affection, et il dit, « Père, je te loue et te rends grâce pour tout. » Thank you.
Thank you.